Bonsoir à tous et bienvenue à la Fête des Tabernacles 2019. Chaque année, mon épouse et moi, nous apprécions tellement cette soirée-là. Nous avons l'occasion d'y rencontrer des gens que nous n'avons pas vus depuis des mois ou parfois même des années. Il y a de l'excitation dans l'air lorsque la fête commence comme ce soir. Et je suis vraiment reconnaissant que vous ayez planifié d'être présent ce soir pour la soirée inaugurale. Ce soir, j'ai l'intention de vous rappeler la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est tellement facile de passer à côté ou d'avoir une mauvaise approche, de penser qu'il s'agit d'une vacance, la fête des tabernacles. Mais ce n'est pas une vacance, la fête des tabernacles. C'est une fête commandée par Dieu. Et il nous faut ne jamais oublier le vrai but de la fête. Une assemblée commandée pour le peuple de Dieu. Et il y a attaché à ça un but très important et j'aimerais revoir avec vous certains aspects de ce but essentiel. Allons dans Zacharie, le chapitre 14. Vous allez entendre sans doute la lecture de ce passage au cours de la fête. C'est important qu'on approfondisse ces choses essentielles. Zacharie 14, verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Ça nous montre quelle époque dont il est question. Le jour du retour de Christ. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Ça s'en vient. Toutes les nations vont s'assembler contre Jérusalem. Ils vont combattre les Juifs à ce moment-là. Ça dit, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. La moitié ira en captivité. Ça nous donne à comprendre qu'il s'agit d'une ville divisée, comme nous voyons actuellement. C'est une ville divisée. Verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Le Christ devra venir régler les problèmes en combattant. Il mettra un terme à ces conflits entre les nations. Le Christ écrasera ces nations belliqueuses. Ça va conduire à ce que le Christ décrit dans Matthieu 24, ce sera le temps où, si le Christ n'intervenait pas, toute vie disparaîtrait de la terre. Donc, il combattra comme il combat le jour de la bataille, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et une moitié vers le midi. Donc, il y aura un changement géologique majeur à ce moment-là. Il y aura un grand tremblement de terre. Et on voit après ça qu'il y a des eaux vives qui sortiront de Jérusalem. Ça symbolise l'Esprit de Dieu. Ces eaux physiques qui vont sortir de Jérusalem vont guérir la pollution sur la planète graduellement à mesure où elles se rendront dans les régions. Verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alors le Christ va revenir et il va sauver les Juifs de ce qui vient. Pas seulement les Juifs, mais toute l'humanité en réalité. Le Christ va devoir le faire de la seule manière pour que l'humanité comprenne, c'est avec force. Il va défaire les nations, il va combattre et écraser les nations venues pour attaquer Jérusalem. On voit la description de cette même époque dans Apocalypse, le chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11. L'Église se sera préparée. Il y aura mariage entre le Christ et son Église. Et on voit au verset 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Ça indique que nous allons revenir avec le Christ sur la terre. Nous allons le rencontrer dans les airs, mais nous allons redescendre avec lui sur le mont des Oliviers, là où il mettra un terme à ses ennemis. Verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Vous savez, le monde n'aime pas parler ou entendre parler de la colère de Dieu. Le monde aime entendre plutôt parler de l'amour de Dieu. Mais en réalité, c'est comme un parent qui doit parfois corriger ses enfants. Dieu devra corriger l'humanité. Parfois, avec un enfant qui est rebelle, ça implique de la colère et une intervention forte pour aider un enfant à ne pas se détruire, à détruire les autres. Parfois, certains enfants font des choses qui doivent être arrêtées parce que c'est dangereux pour eux et pour d'autres. Le Christ va revenir avec colère, par amour, pour s'occuper de l'humanité. Il aime l'humanité et il veut l'amener à la repentance. Lorsque nous arriverons au huitième jour, au dernier jour de la fête, nous allons en parler davantage. Verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Souvent, les gens lisent ça. En fait, la pièce musicale Le Messie de Handel parle du roi des rois et du seigneur des seigneurs, mais les gens ne réalisent pas. Il est le roi de quel roi et il est le seigneur de quel petit seigneur? La Bible nous dit exactement de quoi il s'agit lorsqu'on regarde ça. Nous allons voir ça dans quelques instants. Allons à Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, parce que ça nous montre qui seront ces petits seigneurs. Luc 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Ils connaissaient le message du Christ. Ils avaient entendu parler du gouvernement de Dieu, du royaume, mais ils ne savaient pas à quel moment ça allait se passer ni quand ça allait être établi. Jésus dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. De toute évidence, cet homme-là représente le Christ, cet homme de haute naissance. Il est allé au ciel, très loin. Il est allé là pour être investi de l'autorité royale, pour revenir. Et on peut lire ça dans le livre de Daniel, chapitre 7, où il est question du couronnement de ce roi. Il appela verset 13, 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, une quantité d'argent, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est notre monde aujourd'hui, ça décrit ça. Le monde ne veut pas que le Christ règne sur eux. Ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, absolument pas. Notre monde haït le Christ, haït Dieu, même si certains peuvent dire qu'ils aiment Dieu. Il y a différentes formes de christianisme, mais les gens ne connaissent pas le vrai Dieu. Les concitoyens le haïssaient. Ils lui ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais cet individu, Jésus-Christ, va régner sur eux. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. On voit un peu plus loin que le deuxième vient et que sa mine a rapporté 5 mines. Le Christ lui dit la même chose, reçois autorité sur 5 villes, sois bien fait. Alors on voit ici un certain modèle d'administration des villes avec différentes responsabilités qui seront attribuées à ses serviteurs qui vont régner sur la terre, la famille de Dieu qui va régner sur la terre pendant 1000 ans. On voit ça ici. Et on reconnaît que les petits rois dont il est le roi seront les saints qui seront ressuscités à la vie éternelle, qui auront démontré leur fidélité au cours de la vie présente sur la terre. Allons à Apocalypse, encore une fois, Apocalypse chapitre 20 maintenant. Apocalypse chapitre 20, après ce grand combat où le Christ détruira ses ennemis, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oui, il y a un être spirituel méchant qui influence la pensée de l'humanité, qu'il crée beaucoup de problèmes, en fait, la plupart des problèmes qui assaillent l'humanité. Bien sûr, nous avons notre nature humaine, mais il travaille avec notre esprit. Il tente de nous influencer. Il met dans notre esprit des pensées que l'on pense être justes, qui nous semblent peut-être logiques, mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce ne sont pas les voies de Dieu. Ce livre-là représente la pensée de Dieu. Il faut voir les choses à la perspective de Dieu, comme c'est écrit dans la Bible, mais non pas à partir de notre perspective individuelle. Cet être spirituel qui a influencé l'humanité depuis longtemps, avec des idées, de la politique, toutes sortes de séductions, sera éliminé pour 1000 ans. Et verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Oui. Nos frères et sœurs dans le passé, dans l'histoire, un certain nombre ont été décapités à cause de la parole de Dieu. Ils ont mis Dieu en premier dans leur vie. Et on ne sait pas ce qui va arriver exactement, en ce qui nous concerne personnellement dans l'avenir. Mais nous voyons que selon la direction que le monde prend, on voit à partir du cinquième sceau dans Apocalypse 6 qu'il vient un temps de persécution sur le peuple de Dieu. Certains des membres de l'Église seront persécutés. Il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Mais comme Jésus a dit dans Luc 14, verset 26, il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, il nous faut comprendre qu'on ne peut pas jouer à l'Église. Monsieur Bénédicte nous a expliqué ça tellement souvent. Il faut être là de tout cœur. C'est le but de notre vie. Il faut mettre le Christ en premier dans notre vie. Disposé à le mettre en premier. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous voyons ici ce qui va se passer à la toute fin. Il vient un temps de grande détresse, un temps de trouble extraordinaire. Jésus va revenir, il sera roi de toute la terre. Il va régner à partir de Jérusalem, vous et moi, et tous les serviteurs fidèles de Dieu, jusqu'à la fin, seront avec lui pour administrer la terre en tant que petit roi sous le grand roi des rois et petit seigneur sous le grand seigneur. On voit dans Apocalypse 5, on le voit très bien dans Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Il faut que nous soyons rachetés à cause de nos actes mauvais, à cause de notre méchanceté. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Dieu aime les gens de toute race sur la face de la terre. Ceux qui vont faire partie de son peuple, à la toute fin, vont venir de toutes les nations et de tout peuple. Tu as fait d'eux, verset 10, un royaume, donc un gouvernement, et des sacrificateurs, des enseignants pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà ce qui nous attend. Retournons à Zacharie, s'il vous plaît, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, et voyons ce qui va se produire après que les ennemis du Christ auront été écrasés. Il y a un événement très spécial qui va se passer à ce moment-là pour les survivants sur la terre. Ils auront la même occasion ou la même chance que vous avez, vous et moi, maintenant. Ils pourront se réunir le 15e jour du 7e mois, chaque année, pour célébrer la fête des tabernacles. Voyez le verset 16 de Zacharie 14. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, il y aura donc des survivants de cette grande guerre qui se passera à ce moment-là. Des gens peut-être qui auront été en dehors des champs de bataille ou à des distances plus éloignées, mais ce sont des survivants. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Peut-être vous dites pourquoi est-ce qu'il mentionne la fête des tabernacles plutôt que de mentionner la Pâque ou la fête de la Pentecôte ou une autre fête? Parce que c'est ce que cette fête représente. Ça représente le premier millénaire du règne du Christ sur la terre, le royaume de Dieu, sa famille spirituelle régnant sur la terre. Ce sera une époque où les nations devront envoyer des représentants à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Tout le monde sur la planète ne pourra pas se rendre en même temps à Jérusalem, mais les nations enverront des représentants et j'imagine que chacun voudra y aller un jour. Il y aura bien sûr d'autres sites de fête que celui de Jérusalem dans le monde. Dieu est un Dieu logique, un Dieu pratique. C'est pas possible de mettre des millions de personnes à Jérusalem en même temps. Les nations enverront des représentants. Verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, certains vont refuser de le faire. Ceux qui ne monteront pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Dieu va couper l'approvisionnement en eau. Si la famille d'Égypte, verset 18, ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Voyez-vous, le Christ n'attend pas à rien. Ce n'est pas un jeu. Et je m'inquiète parfois de certains qui prétendent être membres de l'Église et qui ne vont pas à la fête pour toutes sortes de raisons inacceptables. Bien sûr, quand quelqu'un est malade, qu'il est incapable d'y aller, ou parfois il y a des personnes totalement nouvelles à l'Église qui n'ont pas eu l'occasion de ramasser assez d'argent pour aller à la fête, ça, on comprend ça. Mais quand les gens sont en bonne santé, ils doivent se présenter sur le site de la fête. Nous sommes là devant Dieu aujourd'hui. Certains disent, oh, je vais célébrer la fête à la maison. Et ça, c'est un problème lorsqu'ils sont en santé et qu'ils pourraient venir. Il faut se rendre là où Dieu dit, allez célébrer la fête. Verset 19, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas, voyez-vous, pour célébrer la fête des tabernacles. Dieu est sérieux à propos de ça. Il veut que nous gardions la fête. Nous devons observer cette fête-là parce que nous allons enseigner le monde à le faire. Comment le faire? Si nous ne célébrons pas, nous, maintenant, cette fête-là, si on est trop négligent, trop paresseux, ou si on a un chien ou un chat qu'on ne veut pas abandonner, qu'on ne veut pas laisser derrière nous, écoutez, il faut faire face à la situation. Est-ce que vous mettez le Christ d'abord dans votre vie en premier lieu, ou si c'est votre chat ou votre chien ou votre animal de compagnie? Il faut affronter la réalité. Est-ce que je vais obéir à Dieu maintenant, de sorte que dans le monde à venir, je puisse enseigner les autres et être là, ou manquer mon coup? Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà fait cette décision, vous êtes là à la fête. Certains sont à la maison parce qu'ils sont malades ou incapables de se rendre. Et encore une fois, ceux qui ne peuvent pas venir, nous comprenons très bien et personne ne les critique. Mais il faut être honnête là-dedans. Et chacun doit se demander, est-ce que je suis capable d'y aller à la fête ou non? Et si je suis capable d'y aller, il faut que j'y sois. Dans certains cas, vous savez, on a déjà même conseillé à des gens de ne pas venir à la fête parce qu'ils n'étaient pas dans une bonne condition. Je me rappelle du cas d'une femme à qui on avait déconseillé de venir à la fête. Elle est venue quand même et elle a terminé à l'hôpital dans des conditions vraiment difficiles. Il y a des gens qui ne devraient pas monter à la fête, mais la majorité doivent monter à la fête parce qu'ils en sont capables. Allons dans Deutéronome chapitre 14, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 14. On doit le souligner. Dieu nous donne le moyen par lequel on peut se préparer pour aller à la fête. Deutéronome 14, verset 22. Voici le moyen que Dieu nous donne. Tu lèveras la dîme, 10% de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Je me rappelle un homme, en fait, c'était même un ministre dans notre ancienne organisation, il y a plusieurs années, qui disait, on n'a pas vraiment besoin de faire ça chaque année, c'est juste chaque 3 années. Il mélangeait la troisième dîme avec la deuxième dîme. Mais de toute façon, l'Écriture est très claire ici. Il dit, chaque année, tu lèveras la dîme de ce que rapporte ton champ. Verset 23, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Voilà le but pour lequel nous sommes ici. Pas simplement pour avoir du plaisir. Bien sûr, on peut s'amuser. Dieu veut qu'on se réjouisse à sa fête et qu'on ait du plaisir. Mais on ne doit pas seulement avoir des amusements temporaires. Dieu veut qu'on développe d'abord une relation avec lui et développer une relation avec les autres, qu'on fraternise avec les autres dans un but précis, à penser pourquoi nous sommes ici. Nous venons à chaque assemblée, chaque jour, pour apprendre, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu. Si ce n'est pas notre but en venant à la fête, nous sommes ici pour les mauvaises raisons. Nous ne sommes pas ici pour une vacance, ni pour manquer des assemblées, ni pour aller sur la plage durant la journée, prendre une bière à côté sans venir à l'assemblée. On vient ici pour être enseigné, pour apprendre. Verset 24, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Ça s'applique à la plupart d'entre nous aujourd'hui ici. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Voyez-vous, c'est logique parce que ce ne serait pas normal d'amener deux vaches ou deux agneaux ou deux chèvres avec nous à la fête. Voyez-vous, Dieu leur disait, vendez ces animaux-là, changez leur valeur en argent et vous achetez sur place ce que vous aurez besoin pour célébrer la fête. Bien sûr, il y a certaines personnes qui sont des fermiers ou des jardiniers qui peuvent amener des choses à la fête pour manger, mais la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Verset 26. Là, sur le site de la fête, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Toute la famille doit se réjouir. N'oubliez pas ça, messieurs. Assurez-vous que toute votre famille se réjouisse. Au cours des années, je me suis rendu compte que se réjouir à la fête, ce n'est pas simplement juste faire le plus de choses possible, de passer notre temps au parc d'amusement. Ça peut être agréable sur le coup, malgré qu'il y a des longues lignes d'attente sous le soleil et d'autres choses, et on revient très fatigué à la fin de la journée. Ce qui est important, c'est de passer du temps avec les frères et sœurs et de faire des choses ensemble. Ça, c'est important. Que ce soit pour nos adolescents, nos enfants ou pour les adultes. Passons du temps ensemble. C'est beaucoup plus valable que les choses physiques qu'on peut faire. Bien sûr, on peut profiter des choses physiques. On peut aller à des parcs d'amusement, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit la priorité de la fête. Absolument pas. C'est un complément à la fête, non pas la chose principale. Tu te réjouiras, toi et ta famille. Allons maintenant à Lévitique, le chapitre 23. Il y a une leçon pour nous ici. Lévitique, chapitre 23. Nous allons lire ici à partir du verset 42. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Des tentes, ce sont des demeures temporaires pendant 7 jours. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Nous sommes aujourd'hui des Israélites spirituels et les endroits où nous vivons à la fête, les chambres d'hôtel et de motel, ce sont des lieux de demeure temporaire. Lors de la transfiguration, quand le Christ était sur la montagne, Moïse et Élie leur sont apparus dans une vision et le Christ était sous son aspect glorieux devant Pierre, Jacques et Jean. Pierre, vous vous rappelez ce que Pierre a fait à ce moment-là? Pierre a demandé à Jésus, il dit, est-ce qu'on devrait faire une tente pour toi, une tente pour Moïse et une tente pour Élie? Pourquoi il parlait de cette façon-là? Parce que Pierre associait le millénium à venir avec la fête des tentes, avec la fête des tabernacles. Alors ici, nous faisons la même chose. Nous vivons dans des tentes, dans des demeures temporaires. Verset 43, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi les faire habiter sous des tentes? Ce sont des demeures temporaires. Il y a en ça un message très puissant pour nous. Individuellement, dans notre corps, sur la terre, nous vivons une vie temporaire. Ce n'est pas le but réel de l'existence. Le but, ce n'est pas d'avoir le plus de succès possible, de posséder le plus de choses et de faire le plus de choses. Bien sûr, si c'est possible, c'est bien d'avoir une vie abondante, facile et agréable, mais ce n'est pas le but de la vie. Plus je vieillis, plus je me rends compte que la vie passe tellement vite. Plus on est proche de notre fin individuelle. Lorsqu'on est jeune, on ne comprend pas ça vraiment. La vie que nous vivons, elle est très temporaire. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le privilège de vivre. Il y a beaucoup qui décèdent à un très jeune âge. Pourquoi sommes-nous ici? Il faut comprendre le but de la vie. Et à cette fête des tentes ou des demeures temporaires, Dieu nous apprend que nous sommes temporaires dans cette demeure physique. Paul disait, je désire quitter cette tente en parlant de son corps pour être auprès de Christ. Écoutez, dans le monde de demain, quand nous serons transformés, nous ne serons jamais malades, jamais fatigués. Ce sera formidable. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'église, je ne pouvais pas imaginer que le royaume allait venir le lendemain ou très proche. Je me rappelle qu'une fois, il y a des gens qui parlaient entre eux, des hommes qui parlaient entre eux, et quelqu'un a dit, vous savez, si le royaume était établi demain, ce ne serait pas trop tôt. Et moi, j'avais 19 ans. Je me disais, non, c'est trop tôt pour moi. Pourquoi? Parce que il y avait des choses que je voulais vivre avant que le royaume arrive. Mais pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés maintenant, on regarde en rétrospective et on réalise que cette vie, même si elle est bien et bonne dans certaines circonstances, elle est temporaire et elle est très courte. Il y a des rappels importants que je vais vous donner avant de terminer mon message. Nous devons venir à l'Assemblée chaque jour de la fête. Il y a des gens à qui ça arrive parfois de dire, bon, telle journée durant la fête, je vais aller à la pêche. Y a un lac ou ils sont proches de la mer. Ou... Certains vont dire, bon, je prends une pause de la fête et toute la journée, je la consacre à aller à la pêche. Alors, je vais sauter l'Assemblée, je vais ne pas aller à l'Assemblée. Ou je vais aller à ce parc d'amusement, je vais prendre toute la journée pour y aller. Ou je vais aller faire une tournée en voiture pour voir le paysage. Je vais voyager toute la journée et j'irai à la fête demain. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je me rappelle, il y a quelques années, que les gens avaient échangé des choses par écrit là-dessus. Il y avait un individu qui disait, pourquoi est-ce qu'il faut aller à une assemblée chaque jour de la fête des tabernacles et même le huitième jour, le dernier grand jour. Pourquoi est-ce qu'on doit aller là chaque jour? Quelqu'un lui a dit, c'est parce que c'est la tradition de l'Église. D'une façon, oui, c'est la tradition de l'Église, mais c'est une très longue tradition. Allons dans Néhémie, le chapitre 8, Néhémie, le chapitre 8 et le verset 18. Néhémie 8, 18. On référera sans doute à ce chapitre au cours de la fête, parce que ça parle de la fête des tabernacles. Verset 18, on lut, donc c'est Esdras qui le fit en particulier, on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Il y avait donc une assemblée chaque jour, y compris le huitième jour. Eux, dans ce temps-là, avaient certaines choses à faire aussi parce qu'ils devaient faire des sacrifices, il y avait certains rituels qu'ils devaient accomplir. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais nous devons aujourd'hui célébrer la fête pendant les 8 jours, assister à chaque réunion. Alors, faites-vous un devoir d'être présent chaque jour à la fête, en autant que vous êtes en santé, que vous n'êtes pas contagieux. Bien sûr, si vous avez une maladie qui peut être transmise à d'autres, par amour, vous devez rester à l'écart. Sinon, vous devez vous faire un devoir d'être présent à chaque jour, à chaque assemblée. Faites attention pour rester alerte. Parfois, lorsqu'on est nouveau dans l'Église, je sais, on a tous fait ça. On veut faire le plus de choses possible. On reste éveillé tard le soir et on revient le lendemain matin à l'assemblée. On est fatigué, on a de la difficulté à suivre. Il ne faut pas faire ça. Faites preuve de sagesse et de caractère. Faites preuve de sagesse. Établissez les priorités. Ne vous laissez pas aller dans le courant de faire plein de choses et de vous fatiguer et d'oublier le but pour lequel vous êtes à la fête et pour lequel vous devez être en forme. Soyez en forme pour recevoir les messages. Priez pour les messages. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre. Et demandez à Dieu d'inspirer ceux qui donnent les messages. Et à ce moment-là, il y aura des grandes bénédictions pour vous et de grands bénéfices que vous allez en retirer. Le deuxième point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est n'oubliez pas ceux qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Dans Néhémie 8 et le verset 10, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Voyez-vous, ils devaient envoyer des portions de nourriture à d'autres qui étaient moins fortunés qu'eux ou qui étaient dans des circonstances plus difficiles. Nous avons des veuves dans l'Église. Ce n'est pas une question de leur donner de l'argent nécessairement, mais de leur porter attention, de prendre du temps avec elles, de les inclure dans nos activités. Si vous recevez quelqu'un à manger dans votre chambre d'hôtel, dans votre condo, invitez les veuves. Pensez aux personnes qui sont nouvellement arrivées dans l'Église aussi. Considérez ceux qui sont nouveaux dans votre Église. Faites-les se sentir faire partie du groupe, de se sentir accueillis. Peut-être qu'ils sont limités dans leur deuxième dîme. Ça peut les aider, ça peut les encourager. Ici, bien sûr, je ne parle pas des gens qui ne mettent pas de côté l'argent de deuxième dîme, comme ça s'est passé des fois dans le passé, qui venaient à la fête en espérant que les autres allaient leur fournir ce qui leur manquait. Ils ne mettaient pas de côté ce qu'ils auraient dû mettre de côté, mais ils comptaient sur les autres, alors que les autres faisaient des sacrifices pour aller à la fête. Non, ça, ce n'est pas la bonne approche. Je parle ici de nouvelles personnes qui arrivent, qui n'ont peut-être pas tous les moyens, ou des membres de l'Église qui ont peut-être eu une année difficile, qui ont peut-être perdu leur emploi, ou qui ont connu certaines épreuves, qui les ont placés dans une situation financière difficile. Il faut penser à ces gens-là et s'en occuper, mais particulièrement les personnes nouvelles. Mais bien sûr, on doit considérer tout le monde. Ceux qui ont besoin d'un peu de réconfort, un peu de soutien, prenez-les sous votre aile. Troisièmement, soyez une lumière pour les gens autour. Monsieur Dexter Wakefield a écrit un article intéressant. Il nous a invités à étudier les lois, les statuts, les ordonnances de Dieu. Et il nous a montré quel chapitre il faut étudier. Allez à Deutéronome chapitre 24, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 24. Regardez les versets 14 et 15. Deutéronome 24, verset 14. Tu n'opprimeras point le mercenaire, c'est-à-dire l'employé, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Verset 15. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. sans cela, et il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Écoutez, pensez aux gens qui nous servent à la fête des tabernacles. Ces personnes qui travaillent dans les restaurants, dans les motels, dans les hôtels, les femmes de chambre, tous ceux qui nous servent de cette façon-là. Vous savez, ces gens-là ont des salaires très bas et comptent la plupart du temps sur des pourboires pour compléter leur salaire, leur petit salaire. Parfois, ils sont limités même dans les heures qu'ils ont pour travailler. Ce n'est pas des gens qui sont dans une grande abondance. Il dit, verset 14, tu n'opprimeras point le mercenaire ou l'employé, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou un étranger. Certains sont peut-être des immigrants et peut-être des immigrants illégaux aux États-Unis ou en Europe ou dans d'autres parties du monde. C'est pas ça l'important. Ça dit ici que ce soit un de tes frères ou un des étrangers qui est dans tes portes. Prends-en soin. Autrement dit, Dieu ne nous dit pas de prendre tout notre argent pour l'envoyer à l'Église, c'est pas ça. J'espère que chacun est généreux dans les offrandes au cours de la fête, mais en même temps, Dieu nous permet d'avoir un certain montant d'argent et que ce montant-là, dans une certaine partie, serve à encourager les autres. Que ce soit un partage. Il nous faut leur montrer du respect et de l'appréciation. Tu n'opprimeras point le mercenaire. Ça, c'est quelqu'un qui vous sert durant la fête. Ils servent d'autres gens, bien sûr, mais ils vous servent vous, personnellement. Nous devons prendre soin de ces gens-là. Nous devons être une lumière dans le monde. On ne doit pas les opprimer, mais lui donner, pour ainsi dire, son salaire. Ceux qui travaillent dans les restaurants, les femmes de chambre, on peut le faire sur une base quotidienne ou autrement, selon les circonstances. Vous savez, nous sommes ici sur la Terre pour une très courte période de temps. Ça nous montre que nous vivons dans une demeure temporaire, notre corps actuel, la vie qui nous est accordée. La fête n'est pas un temps de vacances. Il faut éliminer cette idée, cette fausse idée. C'est une fête de Dieu et ça a un sens profond pour nous. Dieu nous donne par la fête une image, une perspective. Une perspective, même si c'est tout petit, comment ça va être dans le millénium à venir? Il nous donne, à nous qui sommes appelés maintenant, d'entrevoir ces choses-là, d'en être encouragés. Gardons cette vision d'ensemble dans l'esprit et passons une très belle fête des tabernacles 2019.